Bonjour à tous, bienvenue dans C'est de famille, le podcast de la radio Queer As You, dédié aux familles LGBTQIA+, et celles à en devenir. Aujourd'hui, on vous raconte une histoire d'amour, une histoire de courage aussi, celle de deux femmes, deux mamans et d'un enfant qui les a réunies. Il y a d'abord eu un projet, celui de devenir mère seule, puis une rencontre, et enfin un choix fort, celui de devenir une famille, pleinement, légalement, définitivement. C'est une histoire qui parle de PMA, d'adoption, mais surtout une histoire qui dit « oui, c'est possible ». Cette histoire, c'est celle d'Andromaque P4 et d'Angélique Daelia. Bonjour à toutes les deux et merci de nous recevoir.
Bonjour.
Bonjour.
On va commencer par le début, avant vous deux, avant le mariage, avant la famille telle qu'elle existe aujourd'hui. Angélique, à quel moment tu as su que tu voulais être maman ?
Bah écoute, je dirais quand même assez tardivement, parce que pendant très longtemps, quand j'étais ado, je disais que je ne voulais absolument pas avoir d'enfant. Voilà. Ensuite, vers mes 25 ans, j'ai commencé à me poser la question. De là, j'ai été voir mon généraliste pour faire des tests, des prises de sang, etc. Il s'avère qu'à ce moment-là, on m'a trouvé une maladie. Voilà. Donc, j'ai été voir un spécialiste, un hématologue, qui à ce moment-là m'a dit « Mais madame, vous n'aurez jamais d'enfant ». Voilà. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit « Mais madame, j'aurai un enfant quoi qu'il arrive, donc je vais déjà changer de spécialiste, je vais prendre quelqu'un d'autre qui sera à même de me suivre dans mon envie. Et ensuite, effectivement, si après avoir testé tout ce qui était possible, ce n'est pas possible parce que la génétique ne le permettait pas, alors là, effectivement, ça ne l'était pas. Mais il était hors de question que je m'arrête à « ce n'est pas possible ».
Et est-ce que tu t'es posé la question de comment ? Et pour toi, est-ce que c'était vraiment une évidence, la PMA ?
Oui, c'était absolument une évidence. Alors, j'ai cherché sur Internet, j'ai regardé toutes les possibilités en tant que femme pour avoir un enfant, sur les forums à l'époque qui existaient. Voilà, est-ce que je voulais faire une insémination ? Est-ce que je voulais faire un partage, une coparentalité ? Est-ce que je voulais prendre un donneur sur un site Internet parce qu'il y en avait ? Ou est-ce que je voulais passer par une clinique. Voilà, donc je me suis posé toutes ces questions, pourquoi et comment, et donc pour moi, ce qui a été l'évidence, c'était effectivement de passer par une clinique et de ne pas avoir d'autres personnes avec moi pour poursuivre cette aventure à ce moment-là.
Et est-ce que tu peux bien nous réexpliquer qu'est-ce qu'un parcours PMA, quelles sont les démarches, et est-ce que on est seul dans ce parcours, en fait?
Au début, quand tu cherches, si t'es toute seule, si t'es pas en couple, effectivement, t'es seule dans tes recherches, face à toi-même pour te poser les questions. Mais il y a quand même, voilà, il y a des sites, il y a des forums, il y a des gens avec qui tu peux parler sur Internet. Donc ça, c'est le premier point pour voir tout ce qui est possible. Ensuite, tu contactes les cliniques. Et de là, ils vont te donner la marche à suivre lors du premier rendez-vous, ce qu'il faut faire et comment le faire.
Et qu'est-ce qui a été le plus difficile ? L'administratif, le regard des autres, l'attente ou la peur de ne pas y arriver ? Ou peut-être tout ?
Alors écoute, j'ai envie de te dire, pour moi, j'ai pas eu de peur. Voilà, j'ai pas eu de peur parce que de toutes les façons, moi je voulais un enfant et je voulais faire tout ce qu'il était possible pour avoir cet enfant. Et j'ai suivi ce qu'il y avait à faire sans peur, parce que si effectivement à la fin c'est pas possible parce que ton corps ne le peut pas, je ne peux pas aller au-delà. Quoi qu'il en soit, moi psychologiquement je peux faire tout ce qu'il est possible de faire pour réussir à l'avoir. Donc je l'ai toujours fait positivement, toutes les étapes.
Et le moment où tu apprends que tu es enceinte, tu t'en souviens ?
Oui. C'était donc il m'a fallu 3 essais d'insémination. Donc c'était à la 3e, hein, parce que bien évidemment, on est comme ça à chaque fois, on se dit... à cette époque-là, je fumais par exemple. Donc à chaque fois que je faisais l'insémination, je ne fumais plus, je ne buvais plus de café, je ne buvais aucun verre d'alcool parce qu'effectivement, il était possible que je sois enceinte à ce moment-là. Donc, et je sais pas pourquoi je raconte ça, mais oui, parce que c'est important, je trouve. C'est ce moment d'attente, en fait, où la vie change, c'est plus la même. On n'est plus pareil, parce que... Et en même temps, on est en attente. Donc, obligatoirement, il y a la déception quand c'est négatif, forcément. Et puis, bah, t'as cette fois où tu te dis, bah, ça y est, c'est positif. Et là, bah, c'est juste génial. Donc, ouais, je m'en rappelle.
Et pendant ta grossesse, est-ce que tu t'es sentie soutenue ?
Oui, j'ai pas eu de problème non plus à ce niveau-là. J'avais ma gynécologue parce qu'il faut savoir aussi que bah, effectivement, il faut trouver, tout du moins à cette époque-là, un gynécologue qui veuille bien en fait vous suivre parce que ben légalement en fait il n'avait pas le droit. Donc pour pouvoir avoir les piqûres, etc. Donc, ils n'avaient pas le droit de nous le prescrire. Donc, tous les gynécologues qui étaient d'accord pour le faire, le faisaient bah, dans l'illégalité. Donc, j'ai eu la chance de trouver quelqu'un. Après, pareil, hein, je ne me suis pas démontée. Hein, j'ai pris l'annuaire. J'ai dit, voilà, je cherche ça. Vous me dites oui, vous me dites non. Donc, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit non. Et jusqu'à temps que quelqu'un me dise, bah oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais là encore, par contre, sur les sites, à l'époque, on pouvait trouver une liste de gynécologues qui étaient OK pour nous suivre.
Et est-ce que être une future maman seule, ça a changé quelque chose dans ton vécu ?
Non, parce que de toutes les façons, c'est enfin seule ou accompagnée. Moi, de toutes les façons, je voulais un enfant, donc en fait, en réalité, ça a vraiment été un choix dès le départ. C'est-à-dire, je suis seule, je veux un enfant et je vais vivre ma vie avec mon enfant, quoi. C'était mon objectif.
Et le jour de la naissance, alors ça s'est passé comment ? Qu'est-ce que tu as ressenti ?
C'est merveilleux, forcément, je vais dire ce que te disent toutes les mamans. Alors par contre, j'ai souffert pendant... voilà, plus de 48 heures. Ouais, ça a été assez compliqué. Donc je t'avouerais qu'à ce moment-là, c'est quand même la délivrance, hein, déjà. Voilà, donc je suis partie pour une césarienne en urgence. Donc ce qui fait qu'en fait, je l'ai vue... En réalité, ce qui s'est passé, c'est que quand ils me l'ont enlevée en césarienne, elle n'a pas pleuré, donc tout de suite. Donc j'ai eu ce truc de me dire, effectivement, et tous les médecins aussi se l'ont dit, donc je ne respirais plus. Et là, en fait, elle a pleuré, elle a respiré. Et là, j'ai fait une crise d'angoisse et ils m'ont endormie parce que j'étais en train de faire une crise d'angoisse. Mais je savais qu'elle était vivante, donc je n'ai pas fait la crise d'angoisse avant. Voilà.
Et ta première pensée quand tu as vu ton enfant ? La première chose qui te fera, à part la joie, bien sûr, j'imagine.
Mais c'est ce qui est le plus merveilleux au monde. Hein. C'est un amour qui est éternel. Voilà, c'est ce que je me suis dit, c'est mon amour éternel.
Alors avec le recul, qu'est-ce que tu dirais à une femme aujourd'hui qui hésite à se lancer dans une PMA seule ?
Ben, je dirais qu'il ne faut pas hésiter. Si on a envie d'un enfant, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un dans sa vie pour faire un enfant. Si tu as envie d'un enfant, mais lance-toi, fais-le. Je veux dire, regarde comment le faire. Regarde comment effectivement tu vas gérer ta vie avec cet enfant, histoire de ne pas être prise au dépourvu aussi, parce qu'il y a tout un côté, effectivement, organisation, matériel. Voilà, c'est bien de voir est-ce qu'il y a des parents derrière, est-ce qu'il y a des amis, parce qu'on n'est jamais vraiment seul. C'est-à-dire, ok, on fait un enfant seul, cet enfant est à moi. Mais on fait le tour aussi des personnes qui sont autour de soi. Donc je dirais effectivement, fais un point sur ta vie, vois toutes les choses positives autour de toi et lance-toi, quoi.
Et si tu pouvais justement lui éviter une erreur ou une peur, ça serait quoi ?
La peur de pas y arriver. Parce que, oui, bien sûr, Ça peut finir par un échec, mais comme toute personne voulant un enfant, désirant un enfant, on ne sait pas comment le corps réagit. Donc je dirais, ne te mets pas dans la tête la peur de l'échec. Ça peut arriver à la première INSEE, à la deuxième, à la troisième, à la dixième. Mais faut garder espoir, faut rester positive. Voilà, c'est ce que je dirais. Reste positive malgré les résultats, même s'ils ne sont pas tout de suite positifs.
Et puis dans cette histoire, il y a une rencontre qui va tout changer. Cette rencontre, c'est celle avec Andromaque. Alors, Andromaque et Angélique, comment vous vous êtes rencontrés ?
Bah, on s'est rencontrés sur un site, hein, sur Tinder, tout simplement. Une rencontre un peu fortuite, puisque quand on s'est rencontrés, moi je revenais de New York, et elle était déjà partie, elle était plus sur Paris, donc normalement on n'aurait pas dû se matcher. Et c'est seulement après, en ayant discuté un petit peu, qu'on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout à côté. Quand on s'est dit, on va se voir pour prendre un verre, on s'est rendu compte qu'on était à presque 1000 km l'une de l'autre. Donc on n'aurait jamais dû matcher en réalité. Et voilà, après on a attendu un certain temps pour se voir parce qu'on avait chacune des obligations. Et puis après on s'est rencontrés et on s'est plus jamais laissés.
Donc qu'est-ce qui a été immédiat entre vous ?
Bah, je pense quelque chose de naturel, quelque chose de spontané. En fait, c'était quelque chose de... Comment on dit le mot ?
Une évidence.
Voilà, merci. Voilà. C'était une évidence. C'est ça, je pense.
Alors, 5 mois avant de vous marier, c'est rapide. Alors, qu'est-ce qui vous a fait dire à toutes les deux, c'est elle ?
Bah justement, en fait, c'est évidence. Et puis au final, allons-y, quoi. Pourquoi attendre ?
Je pense qu'en fait, quand on arrive à un certain âge, nous, on s'est connus plus à un âge de raison. Et outre l'attirance qu'on a pu avoir l'une pour l'autre et le coup de foudre et tout ça, la chose un petit peu chimique, il y avait aussi cette envie de fonder une famille, de se poser. Et en fait, quand les gens se rencontrent, on va pas dire au bon moment, mais au moment propice où on veut tous les deux ou toutes les deux la même chose, bah en fait, c'est là où on n'a pas besoin d'attendre parce qu'il faut le faire.
Alors Andromaque, quand tu as rencontré Angélique, elle était déjà maman. Qu'est-ce que ça a changé pour toi ?
Bah, ça a changé beaucoup de choses parce qu'une femme qui est maman, nécessairement, elle n'a pas la même attitude qu'une femme qui ne l'est pas. En tout cas, moi, ce que j'ai connu, toutes les femmes mamans que j'ai connues avant, c'est sûr que c'est très, très différent des femmes qui sont célibataires, qui n'ont pas de responsabilité. Déjà, c'est des femmes qui sont très organisées, surtout quand elles sont des enfants seules. C'est des femmes qui sont très, très... je dirais avec une certaine forme d'intelligence qui, moi, à ce moment-là et aujourd'hui encore, me séduit beaucoup. Une stabilité aussi. C'est pas des femmes qui réfléchissent comme des femmes qui ne sont pas mamans. Ça change vraiment beaucoup de choses d'être maman, en fait.
Et est-ce que ça t'a fait peur ?
Non, pas du tout, parce que moi, j'avais envie d'une famille. J'avais envie de faire une famille, j'avais vraiment fait le tour, j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup bourlingué, comme on dit, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Et j'avais vraiment envie de ça depuis longtemps. Et pour moi, c'était l'occasion propice à réaliser justement ce rêve-là, d'enfin pouvoir rencontrer quelqu'un qui pourrait m'apporter cette stabilité et la possibilité de construire aussi quelque chose ensemble.
Alors, comment s'est faite la rencontre avec l'enfant d'Angélique ? Est-ce que tu t'en souviens ? Et est-ce que tu peux nous raconter ?
Oui, je m'en rappelle très bien. En fait, on a été la chercher ensemble au centre aéré. Elle a d'abord été la chercher, puis moi j'ai attendu à l'entrée. Et puis après, elles sont apparues toutes les deux. Et Angélique m'a présenté ma future fille.
Et à ce moment clé, celui où toi tu décides de devenir pleinement sa maman aussi, à quel moment tu t'es dit, cet enfant c'est aussi le mien ?
En fait, quand elle m'a demandé de m'appeler maman, tout simplement, et là en fait, on a compris ensemble, toutes les trois, qu'on pouvait peut-être faire quelque chose à long terme ensemble.
Et est-ce que l'idée de l'adoption s'est imposée naturellement ?
Oui, bien sûr, à partir du moment où on a un projet comme fonder une famille, où on décide de vouloir construire un avenir ensemble, un avenir peut-être avec un patrimoine ou des valeurs communes, nécessairement on pense au mariage, en tout cas pour ma part, de par l'éducation que j'ai reçue par mes parents et le modèle que j'ai eu d'une famille heureuse, établie, stable. J'avais envie de reproduire ça. Et comme on en a déjà parlé précédemment, à nos époques, c'était pas possible, c'était pas envisageable pour nous. Et le fait de pouvoir le faire aujourd'hui, bah, c'était une évidence de, pour fonder une famille, il fallait se marier et puis il fallait que cet enfant devienne le ciment de notre couple aussi.
Alors, très concrètement, comment se passe une adoption dans ce contexte ?
Alors, à l'époque, c'était assez compliqué. Nous, on avait la chance d'habiter sur Paris, donc on dépendait de la préfecture de Paris. Mais dans d'autres régions ou dans d'autres départements, c'était encore plus compliqué, suivant les mœurs et les partis politiques qui étaient en gouvernance dans les lieux et dans les bourgs. donc pour nous, ça a été quand même un petit peu long. Il fallait prendre un avocat. Donc, ça coûte un certain prix. Ensuite, il faut comme remplir un dossier, hein, comme on remplirait un dossier pour n'importe quelle demande administrative. C'est très, 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 très administratif. Hein, c'est, voilà. Il faut des photos, il faut des témoignages des amis, de la famille, des parents, des grands-parents, entre guillemets, qui donnent leur avis, ce pourquoi c'est une bonne idée que... j'adopte cet enfant, que cet enfant soit adopté par moi, etc., etc., de part et d'autre. Ce que je pourrais apporter de plus à cet enfant en devenant son tuteur légal, etc. Il y a toute cette partie-là. Ensuite, il y a une partie beaucoup plus stricte, mais qui est aussi valable pour les hétérosexuels, hein. C'est pas uniquement pour les homos. Moi, je me rappelle, on m'a convoqué à la police, quoi, au commissariat de mon quartier. Donc j'étais un petit peu surprise et le monsieur qui m'a reçu, très gentil, très bienveillant, m'a expliqué qu'en fait c'était une démarche qui était générale à toutes les personnes qui voulaient adopter, pas uniquement aux homosexuels, et que c'était pour savoir en fait si on ne me poussait pas, par le biais de la filiation, à faire de cet enfant mon héritier ou mon héritière alors que je ne voulais pas. Il y avait aussi cette protection aussi de la personne, il y avait la protection de l'enfant qui passait vraiment en prédominance, mais il y avait aussi la protection en fait de la personne qui adopte pour bien lui expliquer en fait les conséquences que va donner cette adoption d'un point de vue légal et pour la filiation, quoi.
Et donc, est-ce qu'il y a eu des moments de découragement ?
Non, l'attente elle a été longue une fois que le dossier a été fait. Ça a été vraiment pénible de le faire parce qu'il faut courir un peu après les gens et puis c'est des gens qui nous connaissent, hein. Il faut quand même, c'est l'État, donc il faut faire les choses bien. C'est très important de prendre des personnes qui nous connaissent depuis longtemps, qui vont pouvoir décrire parce qu'ils peuvent être interrogés par la suite pour vérifier leur dire, etc. Donc il faut que ce soit des personnes déjà qui soient entre guillemets pas des délinquants, hein. Voilà, il faut que ce soit des personnes qui soient entre guillemets des oies blanches. Et puis c'est long. Une fois qu'on a tout déposé, les photos, les machins, les trucs, les attestations et tout, les cartes d'identité, c'est vraiment très très laborieux. Bah après on attend en fait le jugement du tribunal. Et en fait on sonne à votre porte et il y a un recommandé qui vous arrive comme si vous aviez pas payé une amende. et en fait on vous annonce une bonne nouvelle.
Et du coup ça a mis combien de temps ?
Ça a mis un an.
Ouais, donc il faut être courageux et patient. Et le jour où l'adoption est prononcée, donc qu'est-ce que toi tu ressens ? Donc tu as reçu ce recommandé, tu as la bonne nouvelle, tu ressens quoi tout de suite ?
Bah déjà de la joie et le fait que notre famille a une légitimité comme n'importe quelle famille, que l'enfant que j'ai adopté sera protégé par mon nom, par mon patrimoine, par mes valeurs. Voilà, ça veut dire on lui amène un cadre. En fait, ce dont j'étais heureuse, c'est de pouvoir apporter à cet enfant ce que mes parents m'avaient apporté de manière naturelle. Voilà, nous on avait dû faire des choses très administratives pour y arriver, mais on y était parvenu et voilà, c'est ça que j'ai ressenti en fait. Un peu comme quand on se marie et qu'on se sent comme n'importe quelle personne.
Alors aujourd'hui, votre famille, elle ressemble à quoi ?
Bah, notre famille, elle ressemble à toutes les autres familles, avec une ado de 16 ans, donc avec tout ce qui va avec. C'est pas tous les jours tout rose, mais c'est normal en fait, hein. Voilà, on va pas vous dire que parce qu'on est une famille homosexuelle, ça change quelque chose. Non, c'est exactement les mêmes problématiques.
Oui, moi je parle souvent avec des amis qui sont bi ou qui sont homo ou qui sont hétéros. Et avec des enfants du même âge, on a exactement les mêmes problématiques. Tous, que ce soit des personnes qui sont en couple, qui sont juste paxées, qui soient même séparées. Ils ont tous, on a tous en fait les mêmes problématiques avec nos enfants. Donc on est vraiment un modèle, je pense, d'intégration à la société française. On ne peut pas faire mieux, je crois.
Et est-ce que vous pensez avoir encore à expliquer, à justifier ? Est-ce qu'il y a des situations où ça arrive aujourd'hui ?
Écoute, moi, pour ma part, à n'importe quel moment de ma vie avec mon enfant et ensuite notre enfant, je n'ai jamais justifié. Parce que j'estime que j'ai pas à me justifier. Alors, je présente les choses parce qu'il faut. Quand, par exemple, effectivement, j'étais maman célibataire, mais issue d'homoparentalité, je le présente, je te le dis. Mais ce que t'en fais après, c'est plus mon problème. Moi, je suis droite dans mes basques. Du coup, mon enfant aussi. Donc après, c'est plus mon problème. Et je me suis rendu compte qu'en faisant comme ça, en réalité, mais tout se passe bien. Je veux dire, j'ai toujours été par exemple parent d'élève, hein, voilà, ils connaissent ma situation, je suis parent d'élève et je suis considérée, mais exactement, effectivement, comme tout le monde, il n'y a pas de, de différence. Et pareil par rapport au fait que qu'Andromaque soit la maman également de notre enfant, je n'ai pas à le justifier, je ne le justifie pas, c'est comme ça, elle a été adoptée, je te donne l'information, est-ce que tu en feras ? C'est pas mon problème.
Après, moi, en tant que maman d'adoption, entre guillemets, j'ai plus souvent des gens qui me disent « Oui, la fille de ta femme. » Alors là, je suis obligée de rectifier, de dire « Non, c'est notre enfant, je l'ai adoptée, c'est comme si qu'elle était sortie de mon ventre. » Il y a plus ce côté-là parce que bah, c'est pas moi qui l'ai portée. Donc, je suis souvent obligée de reprendre les gens d'un point de vue du vocabulaire. Mais c'est pas méchant, c'est plus comme, en fait, ils parleraient à quelqu'un d'hétérosexuel et qui serait un parent, une famille recomposée. En fait, alors que nous, on n'est pas une famille recomposée, on est une famille composée.
Alors, à votre enfant, plus tard, qu'aimeriez-vous qu'elle comprenne de votre histoire ?
Je crois qu'elle a déjà tout compris, hein. Elle a été mise au courant très très jeune. Angélique lui a expliqué très rapidement, avec des mots d'enfant, puis avec des mots de plus grande et avec des mots de plus en plus précis. Quel avait été son parcours, pourquoi elle a fait ça et pourquoi aujourd'hui, pour notre enfant aujourd'hui, c'est une vie entre guillemets normale qu'elle a. Elle a deux mamans, elle est dans une famille avec ses soucis d'ado et son histoire, elle est parfois même plus simple et plus belle que celle d'autres enfants, qu'ils soient homo ou hétéro.
Ce que j'ai envie de lui dire, c'est ça la question, bah de garder cette liberté qu'on essaye de lui transmettre. Voilà, sois qui tu dois être, n'aie pas peur d'avancer et crois en toi, en l'avenir, comme tu peux le voir dans ce que nous vivons au quotidien, avec les hauts, avec les bas, mais avec l'envie d'avancer.
Et comme si leur histoire ne s'arrêtait pas là, aujourd'hui, elles continuent de construire ensemble, pas seulement une famille, mais aussi un projet artistique. Vous jouez actuellement toutes les deux dans une pièce qui s'appelle « Moche comme un pou » jusqu'au 22 juin à la Divine Comédie, inspirée du parcours personnel d'Andromaque. Alors, pourquoi cette pièce ?
Cette pièce, en fait, c'était un petit peu pour raconter un parcours de vie d'une femme lesbienne qui est née dans les années 70 et qui a vu l'évolution des mœurs et des lois évoluer dans son pays, voilà, tout simplement dans sa société, et d'expliquer aux gens en fait que dans la vie on peut juste retenir ce qui n'est pas beau ou on peut retenir que ce qui est beau. Et en fait j'avais envie d'amener quelque chose de positif au niveau du parcours d'une femme, de la femme que je suis, un message d'espoir et de dire que non, on n'est pas que des victimes. On n'est pas que des gens qui galéreront pour avoir des enfants. On n'est pas que des gens instables. On n'est pas que des gens... On a le droit d'être qui on veut. On est les mêmes gens que n'importe qui, que notre sexualité ne définit pas notre parcours de vie. Et qu'en réalité, c'est à nous de décider ce qu'on fera de notre vie, si elle sera positive ou pas. Voilà.
Qu'est-ce que ça change de travailler ensemble, après tout ce que vous avez déjà partagé ?
Alors, écoute, je pense que depuis qu'on se connaît, on travaille ensemble sur différents projets, enfin divers et variés, et c'est compliqué. Hein, voilà, on va pas se mentir, travailler ensemble c'est super, mais c'est aussi très compliqué parce que du coup bah tu ramènes tout à la maison, ou en tout cas rien ne sort de la maison. Voilà, tu fais tout avec l'autre, donc c'est génial, hein, on vit des moments extraordinaires de création à deux, donc c'est vraiment super, mais c'est pas non plus toujours effectivement rose, quoi, hein, mais normal, comme dans un couple qui vit. Hein.
Voilà, moi, comme ma femme, on a eu l'exemple de parents qui vivaient et travaillaient ensemble. On est un peu des reproductrices de ce qu'on nous a donné, parce qu'on peut-être par habitude, ou peut-être parce qu'on a aimé ce qu'on a vu aussi. Mais c'est vrai que travailler ensemble, c'est quelque chose de très fusionnel, et c'est pas toujours facile. Mais dans le cas présent où on est, comme on a chacune notre rôle, entre guillemets, dans la vraie vie, bah, ça passe, parce qu'on est quand même bien.
Oui, et puis au moins pendant une heure, les une heure de spectacle, on ne se dispute pas. C'est
voilà,
rigolo.
C'est ça.
Deux femmes, une rencontre, un enfant et aujourd'hui une scène. Leur histoire nous rappelle qu'il n'existe pas une seule façon de faire famille, mais mille façons d'aimer. Si vous voulez découvrir une autre facette de leur univers, vous pouvez les retrouver sur scène dans Moche comme un pou à la Divine Comédie jusqu'au 22 juin 2026. Merci à toutes les deux pour votre confiance et pour votre sincérité.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et à celles et ceux qui nous écoutent, n'oubliez jamais que derrière chaque parcours, même les plus compliqués, il peut y avoir une histoire heureuse. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de C'est de famille. Si cet épisode vous a ému ou inspiré, n'hésitez pas à le partager autour de vous. À très bientôt sur la radio Queerazio.